Bonjour Guillaume, voilà, ben je vais répondre à ta question sur le groupe par ce petit podcast. J'aime bien ce format, ça me permet quelque part d'apporter un peu plus d'explications. Donc, je voulais simplement apporter un peu mon point de vue par rapport à ton chouette schéma. Donc, félicitations pour ton travail. Alors, comme tu peux le voir sur les différentes captures d'écran, j'ai numéroté de 1 jusqu'à 7, 8, je pense, je ne sais plus très bien. Des petits cercles rouges qui pour ça nous aidera comme ça à comprendre l'explication. Donc, je commencerai par l'alimentation. Donc, au niveau du point 1, ben, tu vas utiliser un jack hein, pour alimenter ta carte en 12 volts. Je trouve, et c'est une question de sécurité, c'est que comme parfois les jacks n'ont pas toujours la même polarité entre le centre et le pourtour, c'est de mettre une diode alors de protection, je veux dire en série de la pin 1, avant de relier le VCC à l'entrée de ton régulateur, de manière à empêcher une inversion de polarité potentielle. Ça arrive plus souvent que l'on ne le croit. Alors au niveau des régulateurs, ben, bon, je ne sais pas quel type de régu c'est, hein, donc j'ai bien compris c'était pour faire du 12 vers le 5 et du 5 vers le 3,3. Mais je t'invite quand même à regarder un petit peu ce que le constructeur préconise au niveau des condensateurs de découplage en entrée et en sortie des régulateurs. Je vois notamment pour le U6 que tu prévois, d'après ce que je vois, il faut voir peut-être la qualité de la photo, 110 micros. Ça me paraît quand même beaucoup. Je ne suis pas sûr que ça soit utile parce que mettre des condensateurs aux entrées et sorties, il en faut, mais parfois les surdimensionner peut avoir des effets néfastes, parfois de comportement, de stabilité au niveau des régulateurs. Donc là, je pense qu'il faut un petit peu aller voir dans la datasheet des deux régulateurs. Voilà. Au point là, pour la partie communication USB, donc le point numéro 3, je t'avoue que je n'ai pas tout à fait compris le schéma. Donc j'imagine bien que tu veuilles utiliser les signaux RTS DTR pour réaliser certaines fonctions, puisque je vois qu'elles sont reliées notamment au GPIO 0 et au reset. Par contre, la partie au niveau du reset et du condensateur C1. Bon voilà, je ne connais pas suffisamment maintenant le but de ta carte, mais cette circuiterie, je ne sais pas, je ne la comprends pas du tout. Parce que si tu veux, j'ai fait aussi ma petite recherche, moi, sur le CP, non, pardon, sur le ESP32, et comme tu peux voir sur la photo de droite, on retrouve un circuit similaire avec les deux transistors bipolaires, mais j'aimerais, enfin, j'aimerais, non, c'est toi qui juge, mais de revoir un petit peu s'il n'y a pas de petite erreur au niveau de ton schéma à toi, parce que si tu vois sur la partie de droite, il y a des ressemblances au niveau des signaux DTR-RTS, mais pour moi, il y a quand même un petit peu des différences. Je peux comprendre que le signal reset hein, à la sortie de Q4 sur ton schéma à toi ait un rapport avec le reset peut-être manuel de ton bouton poussoir, mais moi voilà, c'est un avis à toi de voir si tu juges que ce circuit est bon ou pas. Pour la partie 4, hein, tu vois au niveau de l'USB, eh ben, j'aurais plusieurs choses à dire. En fait, il faut. Alors pour la partie 4, hein, sur le même schéma, je vais plus te donner des explications sur la photo suivante, où là je passe un peu en revue les configurations donc du CP2104, qui est ton composant qui permettra de convertir de l'USB vers du sériel. Hein. Alors je t'avoue que je ne connais pas spécialement ce composant en particulier. Maintenant, bon, c'est assez standard, mais si tu vois en dessous, j'ai été extraire des parties de datasheet. Et il y a des choses quand même, je pense qu'il faut à mon avis faire attention. Et donc là où je voulais déjà en venir pour commencer, c'est que trop souvent, hein, je ne parle pas du point ici fonctionnel, mais du point plutôt protection, c'est que tout ce qui est souvent relié au monde extérieur doit souvent faire l'objet de précaution par rapport à comment je dirais, à des composants de protection pour ne pas détruire ton élément. Donc si tu regardes sur la photo, regarde la note 1, ben, il préconise en fait de mettre sur les signaux du connecteur USB, notamment D plus D moins et le V bus, en fait ce qu'on appelle des diodes, donc si vous voulez c'est des diodes de, comment on appelle ça, des transorbes parfois, ça peut porter plusieurs noms, mais on voit ici les ESD protection, c'est des éléments qui en fait permettent, notamment pour éviter de détruire ton composant par des décharges électrostatiques que tu pourras magasiner sur tes doigts, etc. En fait, c'est d'une manière générale pour. Ce sont des éléments qui vont en fait écréter des surtensions potentielles pour protéger ton élément. Alors on dit trop souvent ça sert à rien, hein, ça ne m'arrivera pas. On voit beaucoup de schémas où on n'a pas toutes ces protections-là, mais tu peux me croire, dans des schémas plus industriels ou des schémas qui doivent être, on va dire, avoir une bonne durée dans le temps, mais tous ces petits éléments de protection sont souvent hyper importantes. Hein. Je ne dis pas que ça va changer le fonctionnement de ton système, mais ça va quand même améliorer grandement la fiabilité. Donc j'ai simplement, regarde l'encadré que j'ai mis ici en rouge, simplement des notes du constructeur. Il faut quand même souvent se baser sur les conseils des constructeurs de composants parce que eux connaissent très bien leurs composants et savent très bien ce qu'il faut faire pour avoir un fonctionnement optimal. Comme tu peux voir la note 2, hein, la borne RST, mais te conseille en fait d'y mettre une résistance de pull-up pour une question d'une meilleure, si vous voulez, immunité au bruit. Donc ça, c'est des petites choses qui peut-être, si tu ne la mets pas, il ne se passera jamais rien, mais crois-moi, souvent c'est plus vicieux qu'on ne le pense, et c'est souvent comme ça qu'on a parfois des dysfonctionnements un peu par-ci par-là. Alors, dernière chose également, dans le document, comme tu peux regarder, il y a deux types de montages principaux par rapport à ce composant. C'est si soit ton design est alimenté par le port USB. Hein? Donc là, tu dois alors réfléchir d'une certaine manière, et ou si ton design est auto-alimenté, soit par une source d'énergie extérieure, soit par une pile, etc. Donc je pense que c'est un peu ton cas. Maintenant, il faut, ça je dirais, je n'ai pas non plus moi toutes les infos, c'est à toi de bien réfléchir, mais par contre, le constructeur, lui, propose différentes solutions de câblage en fonction d'un modèle ou d'un autre. Et donc là aussi, ben, je t'inviterais à peut-être regarder attentivement par rapport à cela. Pour que bah, tu sois cohérent par rapport, je dirais, à ton montage et par rapport aux prescriptions. Parce que au niveau des pins VIO, VDD, REC-IN, etc., d'un cas ou d'un autre, notamment même au niveau de VBUS, si tu vois sur le schéma, hein, sur la note numéro 5 est optionnelle, eh ben tu te rends compte qu'il y a quand même des différences dans le câblage. Par contre, je reviens moi sur ton schéma, à toi, hein, au niveau du U10, ben, je vois que le VBUS est connecté au VCCB, d'accord? Je dirais que là, pour moi aussi, hein, j'attire ton attention, pour moi, ça ne va pas dans le sens où, comme je peux comprendre, tu récupères le VCCB, donc le 5 volts, soit en sortie du régulateur U5, donc ça c'est lorsque tu alimenteras ta carte via du 12 volts, ou directement par l'USB. Pour moi, tu ne peux pas connecter, si tu veux, le plus 5 volts de ton USB directement sur la sortie de ton régulateur U5. Généralement, deux sorties ne seront jamais connectées ensemble. Si tu regardes dans les montages Arduino, tu te rendras compte qu'il y a un circuit qui va en fait distinguer, ou du moins qui fera la sélection entre l'alimentation de ta carte via le port USB ou bien l'alimentation de ta carte via le régulateur de tension pour ne pas avoir de conflit entre ces deux sorties. Donc pour moi, tu ne peux pas connecter tes deux VCCB ensemble. Ça va? Alors si tu regardes aussi sur ton composant CP2104, l'entrée numéro 8 si je ne me trompe, qui est la VBUS, tu dois connecter effectivement bien la potentielle de ton USB, moyennant peut-être un pont diviseur comme dans le montage de la datasheet. En fait, c'est une détection, le fait que tu connectes ton port USB, alors il détecte qu'il y a une connexion, alors il y a tout un protocole qui se met en place. Par contre, dans ton cas, ben, lorsque tu alimenteras via un régulateur, ben, le VCCB est en provenance, et c'est logique bien sûr par rapport à ton montage, de ton régulateur de U5, donc le régulateur de tension U5. Donc pour moi là, il y a quand même un petit peu manière à réfléchir. Sinon pour le restant, par rapport donc à U10, ben, je crois que le mieux est quand même donc de bien déjà voir dans quelle situation tu es par rapport, je dirais, au fait qu'il soit auto-alimenté ou alimenté par le port, par le bus USB, pardon. Alors dans la datasheet, tu vois que il te donne, je reviens un peu sur la protection du bus USB. Il te donne notamment une référence chez Littelfuse. Moi, je t'ai mis dans la suite des photos aussi un élément que moi j'ai déjà utilisé de chez Wurtz Electronique. C'est un peu un élément similaire. Donc je te mettrai le lien bien sûr en bas de l'article où tu retrouveras un type de composant qui peut aussi faire office de protection au niveau de ton port USB. Voilà. Ensuite, je vais venir sur la partie donc des I/O. Donc là, j'ai bien compris que tu veux passer, donc tu veux convertir des I/O de 3,3 V vers du 5 V et vice-versa en utilisant les composants donc U4, U2 et U3. Par rapport à cela, là aussi, j'ai été rechercher des informations dans la datasheet donc du constructeur, donc du DXB0108, pardon. Et là, c'est très important. Donc, d'une manière générale, tout circuit intégré, tu dois y placer sur les bornes d'alimentation au minimum un condensateur de découplage, typiquement des condensateurs de 100 nanofarads de type céramique. C'est ce qu'on retrouve un petit peu partout. Tu peux voir dans la datasheet du constructeur que justement sur la pin 2, la pin 19, j'ai entouré les éléments en rouge sur la capture d'écran. Il te propose bien sûr de mettre un condensateur de découplage de 100 nano. Et si tu regardes le petit détail, hein, tu vois qu'il y a un petit cercle en pointillé. Et là, si tu regardes la légende, en fait, il te dit que ça doit être connecté, si tu veux, au plan de masse le plus proche. En réalité, c'est que la masse de ton condensateur de découplage, déjà, la borne plus de la capa, hein, donc la borne qui est reliée à la borne 2 ou à la borne 19, donc le condensateur doit être placé le plus près possible de ces bornes en question, et la borne reliée à la masse, quant à elle, doit être reliée à la masse aussi par le chemin le plus court, et souvent quand on a un plan de masse, alors on utilise un VIA pour aller rejoindre cette masse par le chemin le plus court. Ça, c'est hyper important. Trop souvent, on néglige aussi les condensateurs de découplage, mais crois-moi aussi, ça cause très souvent de problèmes, de dysfonctionnements totalement aléatoires. Et donc voilà, c'est vraiment des règles de bonne pratique. Je dirais aussi, là où je comprends un peu moins, c'est la résistance R8, donc de 10K. C'est pour l'output enable. Ça, je comprends bien que c'est pour activer les composants, mais selon moi, tu dois donc placer, tu dois plutôt te référer au schéma aussi de la datasheet. Ça veut dire que tu dois mettre une pull down, donc entre la borne OE, pardon, donc la pin 10 par rapport à la masse, et venir connecter alors ton VCCA sur, comment je veux dire, sur la pin numéro 10. Hein. D'ailleurs, tu vois en fait que ils font une petite remarque, hein, c'est qu'il faut garder cette pin à l'état bas jusqu'à temps que les tensions VCC et VCB soient, si tu veux, donc power up, soit bien que l'alimentation soit bien présente. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre plutôt suivre le schéma là, de la datasheet du constructeur. Pour moi, et donc je mettrai aussi, moi, c'est cette résistance une seule par élément, par circuit intégré. Alors pour ce qui est des transistors Q2, Q1, là je n'ai pas de remarque particulière, c'est aussi pour convertir ton IKRS3-3 vers du 5-5, enfin vers du 5, pardon. Donc ça, je n'ai pas de remarque particulière. J'ajouterai peut-être au point numéro 5, je vois qu'à mon avis, mais je ne connais pas non plus très très bien le SP32, mais il possède, comme je peux voir sur la pin 6 et 7, deux entrées analogiques. Mais moi, ce que je fais souvent, parce que quand tu dois mesurer une entrée analogique, tu ne sais pas toujours très bien si le signal que tu vas avoir mesuré est un peu bruité, s'il y a des parasites, etc. On peut effectivement faire des filtres d'un point de vue logiciel, mais je trouve toujours qu'il est judicieux, déjà d'un point de vue hardware, de faire déjà certaines opérations pour libérer un peu des ressources au niveau logiciel. Enfin voilà, d'une manière générale, tu pourrais insérer entre la pin A0 à 1 un petit filtre RC, si jamais hein, tu le souhaites, pour pouvoir éventuellement avoir un peu la marge de manœuvre, toi, par la suite, si jamais tu voulais un peu filtrer ton signal analogique. Et même si tu ne voulais pas le filtrer, tu remplaces simplement ta résistance R de ton RC par une résistance de 0 ohm, et donc, je veux dire, ça ne changera rien, mais au moins tu auras prévu les empreintes sur ton PCB, et c'est toujours plus facile de prévoir des empreintes, même qui ne sont pas utilisées, plutôt qu'après devoir faire un peu du bricolage, couper des pistes et pouvoir ainsi réajouter certains éléments. La protection des I/O en général, donc ça c'est le point numéro 8. Bon, là aussi, tout dépend un petit peu de ta carte, dans quel contexte elle sera utilisée. Est-ce que c'est une carte prototype pour valider certains aspects? Mais trop souvent aussi, on néglige la protection des I/O à destination du monde extérieur. Il faut savoir que dès que l'on connecte une carte électronique vers le monde extérieur, on peut vite être confronté à des problématiques de perturbation, de décharge électrostatique, de surtension, de toute série de choses qu'on pense que ça n'arrive pas, mais pourtant c'est souvent présent, qui fait que On détruit tout simplement les éléments, donc très souvent, mais là je ne vais pas pouvoir trop m'attarder ici, mais les IO, ben, il faut toujours un peu réfléchir à quoi ces éléments seront connectés pour éventuellement y apporter aussi des protections, d'accord? Ben voilà, j'ai passé en revue un petit peu les différentes choses qui me sautent, enfin, qui me venaient à l'esprit. Voilà, c'est plus un partage, hein, c'est plus une réflexion que je t'apporte par rapport, je dirais, un peu à différents montages que j'ai pu réaliser par rapport à mon expérience. Maintenant, voilà, j'espère que ce petit podcast aura pu peut-être t'apporter quelques petites précisions. En tous les cas, je te souhaite bonne chance par rapport à la suite de ton travail. Et tu peux bien entendu aussi m'apporter des précisions supplémentaires ou d'autres questions dans les commentaires, donc en bas de l'article ici. Et je me ferai un plaisir d'y répondre si bien sûr ça reste dans mes compétences. Et voilà, donc je te souhaite bonne chance pour la suite de ton travail. À bientôt, au revoir.